dynamique. Voilà. Donc bonjour, d'abord j'espère que vous allez bien, que vous avez pu prendre un peu de repos, relire vos cours. Voilà. Donc aujourd'hui on continue toujours sur le thème de la manifestation de Dieu. Et on va voir là aujourd'hui l'articulation entre la parole de Dieu et les paroles des hommes. Donc normalement vous avez le plan. J'annoncerai quand même le titre parce que j'ai pas mon ordinateur aujourd'hui. Donc voilà, dès le début de cette session, en tout cas de ce parcours, on a vu que la manifestation de Dieu était multiple et qu'elle était à la fois unique et en même temps Dieu se manifestait de multiples façons à des personnes différentes. Alors ça c'était pour l'Ancien Testament, et puis on a vu aussi que au Nouveau Testament, à un moment donné, Dieu décide d'habiter parmi nous, comme nous dit le prologue de Jean, d'être celui qui est parmi les hommes. Donc on a là déjà deux modes de manifestation de Dieu différents, mais à chaque fois, pour chaque mode de manifestation et de révélation, Dieu décide de la manière dont il veut se révéler et se manifester. Et cette manifestation, les hommes qui en sont témoins doivent en rendre compte, d'abord au niveau de leur foi, et ensuite ils doivent en rendre compte en vue du témoignage pour les générations à venir. Donc leur témoignage entre dans une dimension d'héritage pour les générations. Alors, aujourd'hui, on va essayer de répondre à deux questions, en tout cas, voir deux interrogations, deux articulations. S'agissant des Écritures saintes, eh bien, comment pouvons-nous parler à la fois de la parole de Dieu et en même temps des paroles des hommes? Et puis comment, notre deuxième interrogation, comment comprendre les paroles des hommes par rapport à la parole de Dieu? Comment doit-on considérer la parole des hommes qui ont, à un moment donné, décidé de mettre par écrit le témoignage de la révélation et de la manifestation de Dieu? Comment doit-on considérer leurs paroles quand leur parole dit aussi quelque chose, et la plupart du temps, elle dit beaucoup de choses, sur la parole de Dieu lui-même? Donc vous voyez bien la différence et comment on doit considérer, de quel statut on doit donner à la parole des hommes par rapport à celle de Dieu. La condition qui nous permettra de mieux comprendre cette articulation, ce sera le fait que il y a une dimension de transmission dans la décision humaine de mettre par écrit la parole de Dieu. Et donc, il y a une tradition de transmission qui habite déjà le peuple à qui Dieu se manifeste. Parce que ce peuple-là, comme tous les peuples de la région, enfin, ils sont tous habitués à transmettre oralement leur tradition, leur culture. Donc la tradition de transmission orale, elle va de soi. Mais de mettre par écrit, c'est déjà une démarche différente. Il y a déjà l'idée de fixer les choses, que l'héritage de la transmission puisse se fixer, pour qu'il puisse se perpétuer. Quoi qu'il en soit, l'écriture, comme la tradition orale, appartient à une tradition de transmission. Et cette tradition de transmission, pour le Nouveau Testament et pour nous aujourd'hui, elle est héritée des apôtres. C'est la tradition apostolique. Mais cette tradition apostolique, généralement que l'on met avec un T majuscule pour la différencier des traditions, elle participe, elle aussi, à la transmission de la révélation divine. Donc ces premiers mots d'introduction permettent de bien comprendre la dimension à la fois de tradition, d'héritage, de fixation et de perpétuation. Alors la constitution dogmatique Dei Verbum, c'est celle que je lis très largement avec vous parce que c'est la constitution sur la révélation, donc dans des séances sur la manifestation de Dieu, c'est la constitution qui est parfaitement adaptée. Voilà ce que nous dit le texte 1. Cette révélation donnée pour le salut de toutes les nations, Dieu, avec la même bienveillance, a pris des dispositions pour qu'elle demeure toujours en son intégrité et qu'elle soit transmise à toutes les générations. C'est pourquoi le Christ Seigneur, en qui s'achève toute la révélation du Dieu Très-Haut, ayant accompli lui-même et proclamé de sa propre bouche l'Évangile, d'abord promis par les prophètes, ordonna à ses apôtres de le prêcher à tous comme la source de toute vérité salutaire et de toute règle morale, en leur communiquant les dons divins. Ce qui fut fidèlement exécuté, soit par les apôtres qui, par la prédication orale, par leurs exemples et des institutions, transmirent ce qu'ils avaient appris de la bouche du Christ en vivant avec lui, en le voyant agir, ou ce qu'ils tenaient des suggestions du Saint-Esprit, soit par ses apôtres et par les hommes de leur entourage, qui, sous l'inspiration du même Esprit-Saint, consignèrent par écrit le message de salut. Alors, voilà un petit texte qui nous rappelle très succinctement, ou alors on peut le deviner, le lien avec l'Ancien Testament, mais qui inscrit la transmission dans la dimension apostolique de la transmission. Alors on peut regarder de plus près ce texte de la Constitution. D'abord, les raisons de la révélation. Les raisons de la révélation sont dites dès le début, c'est le salut de tous et de toutes les nations. Là, il n'y a pas de tri. Le salut est proposé à tous. Ensuite, il est dit que Dieu a pris des dispositions afin que la parole et que la révélation soient transmises à toutes les générations. Donc, lorsque l'on lit « Dieu a pris des dispositions », on voit bien qu'il s'agit du Père. Ensuite, on passe au Fils Jésus-Christ. Et il est dit « C'est en lui que s'achève toute la révélation du Dieu Très-Haut ». Donc, on passe à la personne du Fils. Jésus-Christ va ordonner à ses apôtres de prédire oralement l'Évangile. Cet Évangile sera transmis de sa bouche aux autres personnes du groupe, puis à la communauté. Donc ce que transmettent les apôtres, c'est ce qu'ils ont appris directement de la bouche de Jésus. Et ils transmettent ce qu'ils ont vu faire en la personne même de Jésus, c'est-à-dire les actes que Jésus a faits, en étant les témoins, ils peuvent les retranscrire. Mais ce que les apôtres disent, ou ce que les apôtres ou les écrivains sacrés, comme nous dit la Constitution dogmatique dans d'autres textes, écrivent, ils le font sous la suggestion de l'Esprit-Saint. Donc, en lisant ce petit texte, cet extrait, on a isolé la personne du Père, on a isolé la personne du Fils et la personne de l'Esprit. Ce qui fait que on ne doit jamais extraire l'articulation de l'articulation parole de Dieu et parole d'homme de l'action du Saint-Esprit, de la dimension trinitaire. L'Esprit agit dans le Fils, il agit pour les hommes par le Fils. Vous voyez, les hommes qui décident de mettre par écrit à un moment donné de l'histoire de leur foi, ils le font parce qu'ils en ont été inspirés par l'Esprit Saint. Cela ne veut pas dire que ce sont des marionnettes qui sont téléguidées par l'Esprit. Ils sont juste, dans leur foi, inspirés des actions mêmes du Christ, l'ayant vu faire des actes, des œuvres, l'ayant ayant entendu plus exactement son enseignement. Donc ils sont bien dans une dimension de transmission. Et la mise à l'écrit, pour eux aussi, comme dans l'Ancien Testament, elle a cette fonction de fixation du témoignage. Si le témoignage n'est pas fixé, il ne peut pas perdurer. Il y a d'autres enjeux du témoignage et de la fixation de l'écriture. C'est que l'écriture, elle va procéder de l'identité de celui à qui elle s'adresse. L'identité chrétienne, par exemple. Alors, on va avancer un petit peu sur notre premier point, le premier grand 1, qui est la Bible. Et donc, je vais commencer par lire une phrase de Paul Beauchamp, qui est un théologien, jésuite, et exégète de son état, qui est né en 1924 et qui est mort en 2001. Et il a écrit en 1987 un petit livre qui s'appelle « Parler d'écriture sainte ». Et ce petit livre, a fait date dans l'histoire de l'exégèse. Parce que certains diront qu'ils n'avaient pas entendu parler de l'écriture sainte de cette manière-là. Donc il y a quelque chose de nouveau dans la manière d'aborder l'écriture. Donc son livre s'appelle « Parler d'écriture sainte ». Et voilà ce qu'il dit. « Au fond, la question n'est pas tant de découvrir la Bible que d'y entrer. Elle a un dehors et un dedans. Être dehors ou dedans, cela dépend surtout d'une conversion intérieure, d'une entente sur la définition du livre. » Et vous voyez qu'on doit commencer par là. C'est quoi le livre Bible ? On en avait dit quelques mots la dernière fois, je crois, quand je vous avais cité les quelques paroles de Louis-Marie Chauvet. Vous vous en souvenez ou pas ? Pas trop ? Vous souvenez où je vous avais dit le père Louis-Marie Chauvet, théologien sacramentaire, grand théologien, qui vient encore de terminer un livre là récemment, sur la messe, Louis-Marie Chauvet, il dit la Bible, c'est un objet, mais ce n'est pas un objet comme les autres. C'est un objet qui, dans votre bibliothèque, est toujours en attente d'être ouvert. Voilà, c'était ça. Voilà, pour caler une table. Parce que on le considère, parce que voilà, il faut lui donner sa place et sa juste place. C'est effectivement un objet, mais ce n'est pas un objet comme tous les autres. Voilà. Et donc, cet objet-là, et de la part de Louis-Marie Chauvet, je trouve que c'est très parlant de dire « c'est un objet libre qui est toujours en attente d'être lu, d'être ouvert pour être lu. Parce que le texte, Bible, la Bible, qui est le recueil de plusieurs textes, eh bien, c'est à voir avec la transmission, précisément. Transmission et à voir avec l'annonce. Il ne fait pas que transmettre une culture ou un culte ou l'histoire d'un peuple. Il annonce aussi quelque chose. C'est pour ça que ce livre-là n'est pas un livre comme les autres. L'annonce, on peut ne pas la recevoir quand on ouvre le livre, à un moment donné, et puis on peut recevoir l'annonce à un autre moment. Donc il y a, dans cette manière tout à fait particulière, l'idée que ce livre-là n'est effectivement pas un livre comme les autres, sans être un livre magique, bien entendu. Mais voilà, il a quelque chose à nous annoncer, et ce qu'il a à annoncer nous concerne, et concerne la foi ou notre vie de foi, si c'est cela qui nous motive. En tout cas, c'est un objet de foi dont l'origine est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre origine de ce livre que la parole de Dieu, parce que c'est par sa parole que Dieu s'est révélé, et qu'il continue de se révéler à nous lorsque nous acceptons d'ouvrir le livre. C'est aussi un livre par lequel Dieu s'approche de nous d'une certaine façon. On ne lit pas simplement des pages écrites à un moment donné de l'histoire, mais on reçoit un message et on pourrait presque dire il y a l'amorce d'une conversation qui pourrait se faire. Donc à propos de la Bible, on abordera trois points. Le premier point, c'est que la Bible, elle est parole de Dieu et parole d'homme dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. On ne fait pas de différence. Que la Bible est constituée d'une multitude de livres. Ce n'est pas un seul livre, en fait, on a un seul livre-objet, mais à l'intérieur de ce livre-objet, on a une multitude de livres. Ça, vous le savez bien. Et le troisième point, c'est que c'est la Bible est le livre d'un peuple, et d'un peuple particulier. C'est le livre de son histoire, et c'est aussi le livre du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, de l'événement Jésus-Christ et de l'histoire du Fils de Dieu dans le monde. Et donc, ce livre devient le livre de l'Église. Il détermine l'identité de la communauté, l'identité chrétienne. Il est le livre de référence cultuel, liturgique. Il n'y a pas d'ecclésialité sans la Bible. Il n'y a pas de dimension pastorale sans la Bible. Donc la Bible, elle est de tous les lieux dans l'Église, y compris sacramentaire, effectivement. Donc les trois points, ces trois points-là, parole de Dieu, parole d'homme, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, la multitude de livres composés et recueillis dans un seul et même objet, le livre d'un peuple et d'une histoire, montrent que la Bible est complexe. Elle n'est pas compliquée, mais elle est complexe. Parce que le livre va révéler une vérité. On avait eu à un moment donné un échange là-dessus, la différence entre vérité et véracité. On ne recherche pas la preuve et la véracité dans la Bible, parce que ce n'est pas ce que l'on lit. On lit le témoignage d'un peuple dans l'Ancien Testament, d'un groupe et d'une communauté dans le Nouveau Testament, communauté du Christ, qui, à un moment donné, ont vu leur vie bouleversée, leur avenir bouleversé, voire leur destin bouleversé, par la venue du Fils de Dieu. Donc on est bien sur une vérité. C'est un livre qui ne peut tromper, la parole de Dieu ne peut pas tromper. Donc on va rechercher la vérité, parce que ceux qui ont écrit le livre ou les livres ont écrit en vérité. Ils n'ont pas cherché à tromper. Ils ont témoigné de ce qu'ils ont vécu dans l'expérience qu'ils ont faite de Dieu et ils le livrent en vérité. Et puis ce livre-là, il a aussi une particularité, c'est qu'il est présence de Dieu. C'est pour ça que ça ne me viendrait pas à l'idée de caler un meuble avec une Bible. Parce qu'il y a vraiment l'idée, et pas que l'idée, que ce livre-là est en lui-même. Alors, bon, je fais quand même attention, parce qu'après on pourrait, vous voyez, on doit mettre des limites à notre langage. Il y a l'idée qu'il est présence de Dieu. Alors, quand on dit qu'il est présence de Dieu, c'est pas qu'il est en lui-même présence de Dieu. Voilà la nuance. Hein, la nuance importante à poser.
C'est pas le courant.
Voilà, parce que sinon on aurait vis-à-vis du livre une vénération qui irait au-delà de ce que l'Église elle-même demande. Voilà.
Vous pouvez redire.
Le livre n'est pas en lui-même la présence de Dieu. D'accord. Parce que s'il était en lui-même la présence de Dieu, il mettrait en œuvre chez nous un réflexe de vénération de l'ordre du totem. Il y aurait une dimension totémique dans cette vénération. Et on serait dans l'idolâtrie du livre. Alors que ce n'est pas le cas. Paul Beauchamp nous le dit bien. On peut être en dedans, il y a un dehors et un dedans. On peut choisir d'être en dehors ou d'être en dedans. Ça, au moment où il le dit en 87, c'est tout à fait nouveau. On a le droit d'être en dehors. Parce que si on est en dehors, ça veut dire qu'on a toujours dans notre vie la possibilité de l'ouvrir et de décider d'être en dedans. Vous voyez ? Ça maintient la liberté que nous avons toutes et tous de faire ou de ne pas faire, en tout cas là, en l'occurrence d'ouvrir ou de ne pas ouvrir le livre. Voilà.
Ce qui est délicat, excusez-moi.
Oui, dites.
En fait, ce que dit Paul Beauchamp.
Oui.
Une entente sur la définition du livre.
Oui.
Parle d'une conversion intérieure.
Oui.
Le bien. Et déjà, par rapport à l'Ancien et au Nouveau Testament, ce n'est pas le même genre de conversion. Déjà, un livre. Et ensuite, une entente sur la définition du livre. Une entente entre qui et qui.
Alors,
et ensuite, de quelle définition sur laquelle.
Oui.
C'est énorme comme.
Oui. Alors, le terme d'entente, ce n'est pas dans le thème on s'entend mutuellement. Hein. C'est voilà, comment on doit définir la Bible. Voilà, une entente. Alors, attendez, je reprends la phrase. Voilà, cela dépend surtout d'une conversion intérieure, d'une entente sur la définition du livre. C'est dans le sens, qu'est-ce qu'on entend par la Bible ? On doit pouvoir la définir. Qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on parle de Bible ? Ben, c'est ça. Oui, mais qu'est-ce qu'on. Il faut que l'on entende mutuellement tous ensemble ce qu'est la Bible et ce qu'elle n'est pas. En fait, c'est ça.
C'est un consensus.
Ben, c'est pas un consensus, c'est comment on doit donner à la Bible sa place, sa juste place. Sans, par exemple, c'était votre question sur, enfin, c'était la nuance que l'on posait sur, elle est pas en, la Bible n'est pas en elle-même la présence de Dieu, parce que si c'était ça, on l'idolâtrerait comme un totem, voilà. Donc on doit bien s'entendre, il doit y avoir une entente commune sur la définition de la Bible, de ce qu'est la Bible. C'est le terme entente qui vous ennuie.
C'est s'entendre, déjà, c'est énorme. Et une définition de la Bible, bonjour le programme.
C'est ce qu'on est en train de
faire. Ben voilà, on va essayer de voir justement, mais vous avez raison, mais justement, dans l'articulation entre parole de Dieu et parole d'homme, Eh bien, oui, la Bible, c'est la parole de Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui a écrit dans le livre. Ce sont les hommes qui ont décidé, à un moment donné, inspirés par l'Esprit, de mettre par écrit l'expérience et la relecture de leur expérience. Voilà. C'est pour ça que ce que Paul Beauchamp est en train de nous dire et de nous mettre en garde, c'est attention à la manière dont vous considérez la Bible. C'est ça l'idée d'entente. Voilà. Alors c'est aussi un livre énigmatique, parce que bien des fois on ne comprend pas toujours ce que l'on lit, parce qu'il y a une dimension énigmatique, une dimension de mystère. Ça ne veut pas dire qu'il y a du mystérieux pour qu'il y ait du mystérieux, c'est pas cela. Mais il y a toujours une dimension de voilement. Vous vous souvenez cette articulation entre le voilement et le dévoilement? Parce qu'il y a des paroles cachées. Et on le voit bien avec Jésus lorsqu'il enseigne par parabole. La parabole, elle a une fonction de pédagogie pour ceux à qui elle s'adresse. Alors il peut y avoir des comparaisons agraires dans les paraboles. Les moissons, pour que ceux qui entendent la parabole puissent avoir des éléments d'analogie, de compréhension, parce qu'ils connaissent. Mais il y a d'autres paraboles où la foule ne comprend pas, où les apôtres ne comprennent pas, et où Jésus va leur expliquer la parabole. Il leur dit, à eux, ça a été caché, mais à vous, je vous explique, voilà, je révèle. Donc il y a des paroles cachées dans la Bible et dans les livres du Nouveau Testament. Il y a aussi des paroles symboliques. Le symbole, c'est une manière de voiler aussi les choses. Il faut aller jusqu'au symbole. Et puis avec l'Ancien et le Nouveau Testament, on avait vu ça la dernière fois, il n'y a pas deux livres séparés. On est bien sûr un seul et même livre. Et ce serait, on avait vu que ce serait une grave erreur pour la confession de foi même de séparer les deux livres, parce que ce serait une manière de séparer l'histoire de la révélation. Alors si on continue avec la Constitution Vatican II, Dei Verbum, cette fois-ci sur l'inspiration de la Sainte Écriture et son interprétation, parce qu'elle se livre à l'interprétation. Voilà ce que les pères conciliaires nous disent. Les réalités divinement révélées que contiennent et présentent les livres de la Sainte Écriture y ont été consignées sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Notre Sainte Mère l'Église, de par la foi apostolique, tient pour sacré et canonique tous les livres, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, puisque rédigés sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Ils ont Dieu pour auteur, et qu'ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même. Pour composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il a eu recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens, pour que lui-même, agissant en eux et par eux, il mise par écrit, en vrais auteurs, tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement. Donc quand on lit ce petit texte-là, on voit bien qu'il y a des réalités divinement révélées, donc il y a bien des réalités, que ces réalités ne sont pas des fictions, déjà, mais qu'elles doivent être, parce que ce sont des réalités divinement révélées, elles doivent être consignées par écrit. Mais la consignation par écrit ne peut se faire que par l'action de l'Esprit-Saint, par l'inspiration de l'Esprit. La foi des apôtres agit, bien entendu, dans la réception de l'Esprit-Saint. Leur foi est le moteur par lequel l'Esprit Saint peut agir. Et donc les apôtres, ce sont des hommes que Dieu a choisis, et certains des apôtres ont mis par écrit. Donc ces écrits permettent de garder intact l'héritage. On n'est plus sur du bouche à oreille, vous savez, ce jeu où on dit une phrase à la première personne qui est, puis la dernière va déformer le message initial. Là, la fixation, elle a aussi pour but de fixer la parole de manière la plus juste possible, la plus conforme à la réalité du message qui est à fixer. Et donc ces écrits, que ce soit ceux de l'Ancien ou du Nouveau Testament, eh bien, sont les uns et les autres tout à fait intégrés dans cette idée de fixation des réalités. Et une fois que c'est fixé par écrit, les textes sont lus en communauté. Souvent, les communautés vont faire un tri sans le savoir. Il y a des textes qui seront lus plus que d'autres. Et ce sont ces textes-là qui seront lus plus que les autres qui vont être gardés dans les communautés. Ça veut dire aussi que ces textes-là vont avoir ils vont pas avoir une autorité, mais ils vont faire autorité. Vous voyez ? C'est-à-dire que ce tri naturel va permettre de rendre à ces textes, ou de donner à ces textes un statut qui sera un statut canonique. C'est-à-dire qu'ils vont entrer dans la normativité des textes des communautés chrétiennes.
Exemple ?
Eh bien, par exemple, les... Madame, vous avez peut-être...
Oui, parce que j'ai lu
je remercie. Les évangiles apocryphes ou les écrits apocryphes sont des écrits qui n'ont pas été reconnus par la communauté comme étant authentiques. Donc quand la communauté chrétienne, qui a accès déjà dans les années 60, 65, a déjà... l'évangile de Marc, on va dire, les écrits qui sont lus, y compris les lettres de Paul, ce qui est lu dans les communautés, c'est ce qui est c'est pas normatif pour eux, mais c'est ce qui nourrit leur foi et c'est ce qui correspond à la mise en œuvre de la liturgie dans leur communauté, avec l'appui des écrits. Le fait qu'ils choisissent des écrits, ils ne font pas un tri volontaire et conscient des écrits. Mais il y a des écrits qui vont correspondre à l'expérience qu'ils ont faite de la vie qu'ils ont vécue avec Jésus, et que cette expérience-là, une fois qu'elle a été relue, l'expérience par excellence, ça va être la mort et la résurrection du Christ. Tous les témoignages de la résurrection du Christ, le kérigme par excellence. Eh bien, ces écrits-là, ils vont demeurer dans les communautés et ils vont être lus de communauté en communauté. C'est l'élection, entre guillemets, le choix de ces textes-là qui va faire qu'ils vont être intégrés dans ce qu'on appelle un canon, c'est-à-dire une dimension normative, c'est-à-dire une règle normative qui va devenir la normativité des textes qui sont lus en communauté, que nous lisons en Église. Après la formation du canon, elle s'est formée au long cours. Il y a au Concile de Trente, on va considérer, en raison de la tension et du schisme avec les protestants, qu'à partir de là, on va fixer dogmatiquement la liste des livres de l'Ancien Testament et la liste des livres du Nouveau Testament, de manière à ce qu'il n'y ait plus de contestation, de manière à ce que l'on ne puisse plus ni intégrer d'autres livres, ni en enlever. Donc ça, c'est une fois que le canon est fixé comme cela, eh bien, on ne va pas avoir recours à des textes, dont les textes apocryphes, qui n'ont pas été reconnus à l'époque où ils ont été écrits comme étant, comme faisant autorité, comme correspondant à l'expérience des communautés. Vous voyez ? Donc on peut les lire par intérêt intellectuel, on peut aussi y trouver des correspondances, mais on ne doit pas les lire en Église comme étant, en leur donnant une fonction et un statut qui serait un statut dogmatique. Ce serait une erreur. Mais rien n'empêche de lire, au contraire, c'est important de lire les écrits apocryphes. Voilà. Donc il faut vraiment faire la différence entre... Il ne s'agit pas de les rejeter, parce qu'on ne les rejette pas, et l'Église connaît les écrits apocryphes, et voilà, on peut les lire, mais...
Ça a été fait quand, la fixation des...
C'est au Concile de Trente, 1545, 1563. Voilà, c'est au moment au moment du schisme avec Luther, hein, ce deuxième grand schisme qui a été... peut-être même quatrième, quand on reprend les schismes des premiers siècles avec... ouais, c'est le quatrième. Alors, où en étais-je ? Au point 2, la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, justement. Donc on a vu, qu'elle est plurielle, cette parole, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à des destinataires différents. C'est la raison pour laquelle la parole est plurielle. Des destinataires différents à des époques différentes. En plus, quand on lit les livres, quels qu'ils soient, même dans un même livre, on peut lire des genres littéraires différents. Mais toutes ces différences ne remettent pas en cause le message, ne remettent pas en cause l'annonce. L'Ancien Testament ne va pas relater que des faits. Et c'est là où on essaye de faire justement un pas de côté avec la dimension historique, purement historique. Parce que ce n'est pas que les faits qui intéressent, c'est comment les faits ont été reçus par les hommes, comment ils les ont compris et comment ils les ont fait vivre. Et bien sûr, ces faits, vous l'avez compris, c'est précisément la révélation de Dieu qui est témoignée dans les écrits. Mais il n'y a pas que ça dans l'Ancien Testament. On trouve aussi, par exemple, dans le Lévitique, on trouve aussi une série de codes et de règles de vie, de coutumes. Alors le Lévitique, il avait été écrit, par exemple, pour le peuple en exil. Donc quand on est en 597, quand le temple de Jérusalem est détruit et que le peuple est exilé, eh bien... l'identité même de ce peuple, elle se vit aussi par le livre et comment le Lévitique maintenait toujours présent les règles de vie du peuple. Donc on a une multitude de livres dans l'Ancien Testament qui rejoignent directement l'existence de ce peuple-là. Et puis bien entendu, c'est le témoignage de l'alliance que Dieu fait avec les hommes. Et la promesse, c'était notre premier cours, enfin notre première séance, avec la promesse faite à Abraham. Donc l'alliance, c'est quand même l'événement fondateur. C'est l'événement fondateur à partir duquel la mise à l'écrit est totalement motivée. Il faut relire l'alliance que Dieu fait avec les hommes et fixer ce témoignage pour les générations futures. Puis on peut voir aussi que les écrivains ne font pas... ils relatent aussi la réalité des choses, l'infidélité du peuple. Voilà, il n'y a pas l'histoire, elle n'est pas édulcorée. Les batailles de tribu à tribu, les trahisons, les infidélités, l'alliance de Dieu à chaque fois renouvelée, tout ça, on le trouve dans l'Ancien Testament. Mais on trouve aussi qu'à chaque fois, Dieu maintient sa promesse. Dans le texte 4, on peut lire, dans le texte de Josué, de toutes les promesses que Yahvé avait faites à la maison d'Israël, aucun ne manqua son effet, tout se réalisa. Ça, c'est un témoignage très fort. Une promesse, des promesses ont été faites, et le peuple, rétrospectivement, témoigne par écrit que tout s'est réalisé. Donc Dieu a tenu ses promesses. Donc le témoignage tient en trois choses. Témoigner de l'action de Dieu. Témoigner de l'efficacité de la parole de Dieu. Et témoigner que l'acte de foi, et que c'est de l'acte de foi que naît cette efficacité. Souvenez-vous, le bras d'Abraham arrêté par la main de l'ange du Seigneur. C'est sa foi qui sauve Isaac du sacrifice. Et si on fait une association dans le Nouveau Testament, nombre de fois Jésus dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Donc la foi, et c'est par la foi que la vérité du témoignage est garantie. Donc c'est pour ça que je vous disais, on ne lit pas qu'une histoire ou que des faits, on lit aussi et surtout le témoignage de la foi de tout un peuple, de tout un groupe. Et la foi, c'est la condition pour réinvestir le projet historien de l'Écriture. Alors ça, ce n'est pas de moi, le réinvestir le projet historien de l'Écriture, c'est du théologien Christophe Théobald. Et ça, c'est une idée intéressante. Voilà, Christophe Théobald, il dit, l'Écriture, il y a dans la mise, dans la décision de mettre par écrit, l'idée de réinvestir le projet historien de l'Écriture. Je vais vous expliquer, en tout cas ce que j'ai compris. Réinvestir le projet historien de l'Écriture. En même temps, c'est assez logique, on va dire, dans cette phrase-là, qu'on ne comprend pas toujours tout de suite. Mais dès l'instant où il y a eu une décision de prise, après avoir relu toute l'histoire, la décision de mettre par écrit, c'est un projet qui entre, comment dire, j'allais dire dans l'histoire, mais vous voyez, un historien de métier qui déciderait de raconter la vie de Louis XIV, il raconterait la vie de Louis XIV, mais sa décision de le faire serait un projet historien. Vous voyez ? Ce n'est pas un projet de foi premier, pour ce qui est de la Bible, mais c'est un projet historien. Voilà. Donc, il y a une manière de... L'écriture, ce n'est pas que l'écriture du témoignage de la foi, on doit la considérer aussi comme entrant dans un projet historien. Il y a aussi l'idée que ça entre dans une histoire qui nous concerne. Voilà. Vous voyez ça? Et j'ai trouvé que cette idée-là de réinvestir le projet historien, qu'on doit considérer l'écriture aussi comme ça, disait quelque chose de donner une dimension à l'écriture Bible, le fait qu'on puisse l'autoriser à intégrer l'histoire commune, en fait. Voilà, enfin, en France, Louis XIV, nous, voilà, c'est notre histoire commune. Eh bien, l'écriture fait partie d'une histoire commune bien plus large, universelle. Alors, on est dehors, on est dedans, mais on est toujours placé par rapport à elle. En fait, dehors ou dedans, on est toujours à côté. Voilà. Donc, même si on est dehors, on est quand même à côté.
Donc, il y a un double témoignage dans l'écriture. C'est un acte de foi.
Oui.
Et c'est un travail d'historien.
Oui, exactement. Exactement. Et l'évangéliste par excellence qui a fait ce travail-là, c'est Luc. Il le dit lui-même. Il s'est intéressé, il a recueilli tous les témoignages. Voilà, enfin j'ai plus les premiers mots de son évangile, voilà. Et puis pour en donner un récit ordonné, construit, qui corresponde au plus près à la réalité. Et à ce livre-là, il a adjoint un autre livre qui est celui des actes, l'histoire de l'Église et l'histoire des communautés. Ça, c'est un travail d'historien. Mais ce travail historien, il l'a mené d'abord comme un homme de foi.
Conduit par l'esprit.
Conduit par l'esprit et inspiré par l'esprit, tout à fait.
Même l'épopée historique.
Voilà, exactement, exactement. Parce que la mise par écrit de l'histoire, de tout ce que l'on dit, elle ne peut pas se faire sans un acte de croire. Et le fait de mettre par écrit, c'est déjà un acte de foi. Un acte de foi qui s'inscrit dans un croire, vraiment un croire en action. Pas un croire qui veut se justifier, mais qui se met précisément en action dans l'écriture. Alors avant la pause, on avait dit que la décision de mettre par écrit est déjà un acte de foi pour celui qui décide de mettre par écrit. Et donc ça introduit notre point suivant, le point 2.1, l'histoire du salut et acte de foi. Parce que la mise par écrit, c'est la conséquence de la foi. Vous voyez ? Ce n'est pas une décision purement intellectuelle. C'est d'abord une décision de foi, qui devient un acte de foi pour les générations à venir. Donc il y a vraiment l'idée, comme on le disait tout au début en introduction, d'une perpétuation. Et dans la question très intéressante que soulevait Christophe Théobald, il va mettre en vis-à-vis la parole de Dieu, puisque la Bible c'est la parole de Dieu, il va mettre en vis-à-vis la parole de Dieu et le projet de l'histoire. Puisque Dieu s'adresse aux hommes dans leur histoire. Et de fait, la mise par écrit devient un projet d'historien. Mais dans ce projet historien, il y a aussi derrière cela l'idée de préparation. Comment ce projet prépare et initie l'histoire du salut ? Dans l'idée de continuation, de perpétuation. Quand je parle de préparation, on doit avoir en écho l'idée d'économie. Se donner les moyens de mettre en œuvre une histoire écrite qui va préparer une annonce à venir. Et donc cette économie va s'exprimer par un thème récurrent qui est celui de l'élection. Le choix d'un peuple dans l'Ancien Testament, le choix des prophètes, le choix des écrivains. On est aussi dans la même articulation, dans le même dynamisme.
Excusez-moi, je comprends pas
le mot d'économie. Ah, l'économie, on avait vu ça au tout premier cours. Quand on parle d'économie, par exemple, l'économie de la révélation, ça va être, on va dire que c'est un principe en théologie, mais pour le dire tout simplement, quels sont les moyens que Dieu se donne pour se faire connaître ? Alors, il va s'adresser à des hommes qu'il a choisis, à des prophètes, voilà. Et donc l'élection, elle fait partie de cette économie-là, c'est un des moyens. Il y a dans cette économie, on pourrait rajouter, des actes, des paroles qui vont s'accomplir dans la promesse, qui vont s'accomplir par l'alliance, qui vont s'accomplir en fidélité et avec amour. Mais à ces mots, on doit aussi en rajouter un autre qui est celui de liberté. C'est la liberté de ceux qui ont décidé de mettre par écrit, même s'ils sont inspirés de l'Esprit-Saint, ils n'ont pas écrit sous la dictée. Ils mettent en œuvre leur propre liberté. Ils écrivent selon le style d'écriture de leur époque, de leur culture, de leur milieu. Et ils décident d'écrire ce qui est ou ce qui paraît être le témoignage le plus significatif pour l'identité du groupe à qui ils s'adressent. Vous voyez ? Donc, il ne faut pas éliminer la dimension de liberté de l'écrivain sacré. Alors, le terme d'écrivain sacré, c'est le terme que la Constitution dogmatique Vatican II, dans Dei Verbum, utilise le plus généralement. Les écrivains ou les auteurs-écrivains n'ont pas été préoccupés par la manière dont ils écrivaient. Ils n'ont pas cherché à écrire de manière intellectuelle. Ils n'ont pas été préoccupés par l'élaboration intellectuelle de ce qu'ils écrivaient. Leur préoccupation première, c'était de porter et de fixer le témoignage. Alors, j'en arrive au point 2. Point 2.2 sur l'économie de l'Ancien Testament. On est toujours un petit peu, je fais des allers-retours, mais vous allez comprendre que ces allers-retours, ils s'inscrivent dans une mise en œuvre qui permet, surtout dans l'Ancien Testament et à partir de l'Ancien Testament, de comprendre comment l'économie se met en œuvre jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à l'accomplissement de l'annonce. Ce mouvement économique a été compris par un théologien en termes de déploiement, parce que c'est depuis la révélation, dans la mise en écrit de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il y a un déploiement du témoignage, un déploiement des expériences, un déploiement d'époque à une autre époque pour les générations, mais avec l'idée que tout se reconcentre en Jésus-Christ.
Qui ne
théologien ?
C'est Balthazar, Hans-Urs von Balthasar, B-A-L-T-H-A-S-A-R. L'idée, c'est de dire que la révélation, elle se déploie de manière diverse, mais qu'à un moment donné, parce que c'est la décision de Dieu, il y a un reploiement en Jésus-Christ lui-même. Mais à partir de ce point de reploiement qu'est le Christ lui-même, va pouvoir se mettre en œuvre une autre étape d'écriture, qui est l'étape du Nouveau Testament. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que...
On est dans quel point, là ?
On est dans le 2-2. C'est-à-dire... Oui, je suis désolée, j'avais pas mon ordinateur. On est dans l'économie de l'Ancien Testament pour dire que l'annonce de l'Ancien Testament, qui se déploie dans l'Ancien Testament, va venir ensuite se recentrer sur le Christ, va venir un reploiement qui va venir se recentrer sur l'annonce même de la venue du Christ, sur sa mort et sa résurrection. L'idée, c'est quand même de voir qu'il y a, dans la mise à l'écrit ou mise par écrit du Nouveau Testament, non seulement le témoignage de l'événement Jésus-Christ, sa venue, sa vie, sa mort et sa résurrection, mais qu'il y a aussi, contenu dans cette histoire-là, tout l'Ancien Testament. C'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer dans l'écriture qu'est le Nouveau Testament, l'intégration totale de l'Ancien. Parce que si l'on séparait, ce serait une manière de séparer l'histoire de la révélation en deux parties distinctes. Ce qui serait une erreur. Parce que ce terme économie qui coince un petit peu, peut-être parfois, mais qui n'est pas si mauvais que ça, en tout cas, qui dit bien le mouvement que Dieu choisit de mener dans l'histoire, c'est un mouvement qui est en continu. Il y a une continuité ininterrompue de la révélation dans un mouvement d'annonce et dans un mouvement d'accomplissement. Que ce soit l'écriture de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, on est toujours dans la même idée de fixation et de perpétuation. Sauf que dans le Nouveau Testament, on a une concentration de l'annonce et de l'accomplissement qui se fait dans le kérigme lui-même. Le kérigme. Alors, le kérigme, je vais vous l'écrire, je n'ai pas de stylo. C'est K-E accent aigu, R-Y. G-M-E. Voilà. Le kérigme concentre à lui seul l'annonce et l'accomplissement de la révélation, puisque c'est en Jésus-Christ que la révélation s'accomplit pleinement et totalement. Donc si elle s'accomplit pleinement et totalement, alors l'Ancien Testament est contenu. Il n'est pas mis en dehors de cela. Seulement, le statut et la fonction de l'accomplissement a une valeur de témoignage, non plus seulement pour les générations à venir d'un peuple existant, mais ça s'inscrit dans une universalité qui n'était pas comprise de cette manière-là par le peuple de l'Ancien Testament. Vous voyez ? Jésus-Christ a vécu, est mort et est ressuscité pour tous, pas seulement pour un peuple choisi. L'élargissement de la révélation est comprise dans sa dimension universelle. L'exemple que je prends à chaque fois, c'est le centurion au pied de la croix qui s'écrie « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». On ne sait pas si le centurion romain s'est converti. à Christ, parce qu'on ne parle pas encore de christianisme, mais c'est converti à Christ. Et à la limite, ça ne nous intéresse pas. Ce qui est important là, c'est que de la bouche d'un païen qui a sûrement participé à la persécution de Jésus-Christ, que de sa bouche puisse sortir la reconnaissance que celui qui meurt sur la croix comme un brigand est vraiment le Fils de Dieu. C'est ça qui est important. Et c'est de la bouche d'un païen qu'est révélé, parce qu'on est là dans une dimension de révélation, par la bouche d'un homme païen, qu'est révélée la dimension universelle du salut. Donc vous voyez le changement entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On n'est plus dans l'héritage de génération en génération pour fixer la dimension existentielle d'un peuple, mais on est dans l'accomplissement de cette révélation, parce que c'est pour tous qu'elle s'accomplit, pas seulement pour un peuple. Est-ce que ça vous convient ? Ça
va ? Les prophètes de l'Ancien Testament avaient déjà ouvert des portes et des fenêtres. Isaïe, à certains moments, déjà il disait ça, mais c'était qu'un prophète.
Oui, mais il y a juste une difficulté avec ça, c'est que nous lisons Isaïe aujourd'hui avec nos lunettes de chrétiens. Et que voilà. L'idée, c'est toujours, quand on lit un texte que de l'Ancien ou du Nouveau Testament, vraiment, c'est de se dire, c'est les questions qu'on doit se poser, que je vous disais tout à l'heure. Qui a écrit? À quelle époque? À qui il s'adresse? Pour qui ça a été écrit? Est-ce que c'est lui qui a tout écrit? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont participé à l'écriture? Parce que de redonner, de replacer l'écrit dans son contexte historique, ça nous permet de mettre une distance entre le texte et nous, et d'éviter de plaquer sur les textes notre propre, j'allais dire nos préjugés, c'est-à-dire notre propre précompréhension du texte, voyez ? Parce qu'on connaît les textes quand même. Et donc la plupart du temps, comme on les connaît, ben, on dit, je le connais bien ce texte-là, mais on va donner une interprétation du texte qui est tellement collée au texte que de fait, c'est plus notre interprétation, ce que nous on pense du texte, que le texte lui-même. Parce que c'est pas tant de se dire qu'est-ce que le texte veut nous dire, parce qu'il y a cette phrase de Damien Noël, exégète maintenant à la retraite, qui disait, mais le texte, il veut rien nous dire, le texte. Voilà. Le texte dit quelque chose à un moment donné de l'histoire. Voilà, il dit quelque chose. Que nous fassions le pas en recherche exégétique, historique, pour aller comprendre ce quelque chose, c'est ça qui est important. Et comment ce quelque chose continue aujourd'hui pour moi de changer? Voilà, c'est qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui? En fait, c'est ça l'important. Mais en ayant mis préalablement une distance entre le texte et nous. C'est la distance nécessaire pour recevoir le texte, si on veut le recevoir convenablement. Alors, comme je vous dis les choses un petit peu selon vos questions, un petit peu, pas dans le désordre, parce que finalement, mais bon, de manière plus rapide, j'en arrive à toujours ce texte de la Constitution dogmatique sur l'importance de l'Ancien Testament pour les chrétiens. C'est le texte 5. Alors on en revient toujours, vous voyez, ça commence par l'économie, donc c'est pour ça que c'est important d'être un petit peu familier de ce terme-là. L'économie de l'Ancien Testament avait pour raison d'être majeure de préparer l'avènement du Christ Sauveur de tous et de son royaume messianique, d'annoncer prophétiquement cet avènement et de le signifier par diverses figures. Compte tenu de la situation humaine, vous l'avez le texte ?
Ah bon.
Compte tenu de la situation humaine qui précède le salut instauré par le Christ, les livres de l'Ancien Testament permettent à tous de connaître qui est Dieu et qui est l'homme, non moins que la manière dont Dieu, dans sa justice et sa miséricorde, agit envers les hommes. Ces livres, bien qu'ils contiennent de l'imparfait et du caduc, sont pourtant les témoins d'une véritable pédagogie divine. C'est pourquoi les fidèles du Christ doivent les accepter avec vénération. En eux s'exprime un vif sens de Dieu. En eux se trouvent de sublimes enseignements sur Dieu. Une sagesse salutaire au sujet de la vie humaine. D'admirables trésors de prières. Et en eux, enfin, se tient caché le mystère de notre salut. Alors vous voyez, si on reprend ce texte, et si on a un stabilo en main, on pourrait déjà surligner le terme de préparer. Voilà. L'économie de l'Ancien Testament avait pour raison d'être majeure de préparer l'avènement du Christ Sauveur de tous. Ensuite, on peut surligner d'annoncer prophétiquement. Effectivement, les prophètes étaient là pour annoncer. Et pour annoncer, eh bien, ils se sont servis de diverses figures. On a ça dans l'Ancien Testament.
Comment vous définiriez figure ?
Eh bien, par exemple, vous parliez d'Isaïe, par exemple, eh bien, la figure du serviteur souffrant. La figure prophétique. Voilà, c'est ça les figures. Et le texte nous dit que l'Ancien Testament met en œuvre une pédagogie divine. Voilà Dieu qui se fait pédagogue par la médiation des auteurs sacrés. Ensuite, on passe à l'instauration des livres du Nouveau Testament. Les fidèles du Christ doivent accepter avec vénération les textes de l'Ancien Testament, et là est déployé le vif sens de Dieu, les sublimes enseignements, la sagesse salutaire, les admirables trésors de prière que sont les psaumes, par exemple. Et se tient caché le mystère de notre salut. Parce que la volonté de Dieu nous échappe toujours. C'est pour ça qu'il y a du mystère. Et donc notre point 3 sur le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, dont on a très largement déjà dit des choses sur le lien indéfectible entre l'Ancien et le Nouveau Testament, en raison même du texte que l'on vient de lire de la Constitution dogmatique. Parce que ce qui s'est accompli pour le peuple dans son histoire, qui est une histoire d'élection, ce peuple-là, il a été choisi par Dieu, c'était ce peuple-là et pas un autre, ce qui s'accomplit dans l'Ancien Testament pour ce peuple élu, eh bien, va se poursuivre non plus sous le mode de l'élection, mais sous le mode de l'identité. De l'identité dévoilée en Jésus-Christ. Ça va, Aude? Je vois que le micro... Tu m'entends pas, peut-être? Si, ça va. Donc, le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament doit se comprendre dans une interprétation commune. On fait des allers-retours entre le Nouveau et l'Ancien Testament. C'est pour ça que si vous êtes attentif à la manière dont est rédigé le parti pris de l'éditeur des Bibles, c'est pas simplement de mettre des mots ou des phrases en notes de bas de page, en y mettant des références de l'Ancien Testament, mais c'est aussi de les avoir sur les colonnes à côté. À gauche et à droite des textes, vous avez des références directes, des références bibliques. Donc quand on lit le Nouveau Testament et que l'on voit dans la colonne de gauche ou de droite les références de l'Ancien Testament, ne faisons pas l'économie de cela. Allons voir, si on n'est pas dans une lecture priante, allons voir ouvrons l'Ancien Testament pour aller voir la correspondance ou pourquoi il y a cette correspondance-là. Donc la correspondance nous oblige à ne jamais séparer l'un et l'autre et à les lire simultanément, en tout cas de faire l'aller-retour très fréquemment. Parce que l'unité des deux testaments, c'est la clé d'interprétation. Et que, en théologie, il y a une... Voilà, si quelque chose vous ne comprenez pas, on comprend toujours tout en théologie à partir de l'unité. À partir de l'unité, à partir de l'union et à partir de la communion. C'est les trois mots très importants. Mais le plus important en théologie, c'est l'unité. Si quelque chose vous échappe, essayez de le repenser à partir de l'unité. Et les choses s'interprètent très facilement. En tout cas avec plus de facilité. Alors, cette unité, eh bien, elle est maintenant mise en vis-à-vis, on va dire, par rapport à la tradition. Parce que l'écriture, elle fait partie d'une tradition de transmission, qui était d'abord une tradition orale. Donc lorsque l'on parle d'écriture, on doit toujours avoir en tête la dimension de tradition. C'est notre point 3.1, le rapport écriture-tradition dans l'articulation entre Dieu auteur de l'écriture et les auteurs sacrés, justement. Alors, le magistère, toujours. Le texte 6. La sainte tradition, donc vous voyez bien, avec un grand T, parce qu'il s'agit de la tradition apostolique. La sainte tradition et la sainte écriture sont donc reliées et communiquent étroitement entre elles, car toutes deux jaillissent de la même source divine, ne forment pour ainsi dire qu'un tout et tendent à une même fin. En effet, la Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, elle est consignée par écrit. Quant à la Sainte Tradition, elle porte la parole de Dieu confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres et la transmet intégralement à leurs successeurs pour que, illuminés par l'Esprit de vérité, en la prêchant, ils la gardent, l'exposent et la répandent avec fidélité. Il en résulte que l'Église ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. C'est pourquoi l'une et l'autre doivent être reçues et vénérées avec un égal sentiment d'amour et de respect. Donc, vous voyez, l'unité de l'écriture de l'Ancien et de la tradition et de l'écriture, ce qui fait l'unité, c'est le terme « la sainte tradition et la sainte écriture ». Tous les deux sont saints.
Excusez-moi.
Oui.
C'est quoi la sainte tradition ?
La sainte tradition, c'est la tradition héritée des apôtres. C'est la tradition apostolique.
Et quoi la tradition apostolique ?
Comment ?
C'est quoi la... C'est pas l'Ancien Testament versus le Nouveau.
Alors, les apôtres sont juifs, donc ils ont une connaissance de l'Ancien Testament qui est presque innée, quoi. Enfin, c'est... Ça fait partie, oui, c'est même cultuel, ça fait partie de leur identité. Lorsque les apôtres vont témoigner, suivre Jésus et qu'ils vont témoigner de sa vie, de sa mort et de sa résurrection, et qu'ils proclament les premiers le kérigme, Jésus-Christ est vraiment ressuscité, hein, rappelez-vous, les pèlerins d'Emmaüs, reconnaissant Jésus à la fraction du pain, lorsqu'ils reviennent à Jérusalem et qu'ils disent « Nous avons vu le Christ ressuscité », on leur dit « C'est vrai, il est vraiment ressuscité, il est apparu à Simon ». Donc ça veut dire que celui qui a la primauté de l'apparition, c'est Simon. À partir de là, il y a une autorité apostolique parce qu'ils sont les premiers à transmettre le kérigme et à l'annoncer dans les communautés qui naissent ou dans les groupes qui ont connu Jésus. Donc cette autorité, c'est la tradition apostolique, c'est ce qui fait, c'est ce qui donne à la tradition apostolique son autorité, plus exactement. Voilà.
On est dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, 100%.
Oui, ouais, tout à fait. Ouais.
S'il vous plaît, que veut dire la phrase vers la fin ? Il en résulte que l'Église ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points. Alors l'Écriture sainte, ça veut dire le Nouveau Testament ?
Alors ça, c'est une phrase qui a... Alors cette phrase, alors je ne vais pas faire toute l'histoire de cette phrase, mais il faut savoir qu'à Vatican II, le texte de la Constitution dogmatique de la révélation de Dieu, c'était un des premiers textes qui a été porté à la discussion des pères conciliaires. Et c'est un texte qui n'a pas du tout été reçu tel qu'il était écrit. Et que finalement, ce texte sera le dernier texte qui sera voté à Concile Vatican II. Précisément parce que il y avait dans ce texte-là, et vous avez pointé une des difficultés majeures de ce texte avec les protestants à l'époque, parce que ça a failli mal tourner avec les protestants, la signification de cette phrase. Il en résulte que l'Église ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. Ça veut dire que l'Église considère, non pas contre les protestants, mais elle considère que la tradition orale, c'est-à-dire la tradition de transmission du kérigme avant la mise à l'écrit, précède l'Écriture. Donc la révélation ne peut pas être seule, elle ne peut pas se tenir seule de l'Écriture. Vous voyez ?
Wow. Oui, mais la tradition orale du Nouveau Testament. Oui.
Non.
Non.
La tradition, l'annonce de la résurrection, de la mort et de la résurrection du Christ. La tradition, le kérigme. Le kérigme, c'est Jésus est vraiment ressuscité. À Pâques, on dit Alléluia, le Christ est ressuscité. C'est ça, il est ressuscité. C'est le kérigme. Bon. À partir du le kérigme contient en lui-même toute l'histoire de la révélation, on pourrait dire, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ce qui se passe, c'est que l'Église considère que on peut accéder à la révélation en dehors de l'Écriture, puisqu'au départ, les apôtres et Jésus sont juifs, et que la révélation est accessible à une période au Nouveau Testament. Je parle bien du Nouveau Testament, puisque l'Ancien Testament était déjà écrit. En dehors de l'écriture, il y a une transmission orale, même dans l'Ancien Testament, avant la mise à l'écrit de l'Ancien Testament, il y a une tradition qui était orale.
Mais ça ne se résume pas à la résurrection.
Non, bien entendu, on est sur la révélation. Voilà, la résurrection, on est là sur l'accomplissement de la révélation. Accompli par le kérigme qui contient en lui-même, voilà, cet alléluia, on va dire, qu'on résumer comme ça. Mais la difficulté avec les protestants, c'est que pour les protestants depuis Luther, l'accès à la révélation, c'est par l'écriture. Donc, quand les pères conciliaires ont considéré qu'il y avait deux sources dans la révélation, la tradition et l'écriture, ça n'a pas plu aux protestants, à juste titre. Mais en même temps, on peut comprendre la position de l'Église qui dit, ben, avant la mise à l'écrit, il y avait une tradition orale, et par la tradition orale, on pouvait atteindre la révélation, comprendre quelque chose de la révélation avant l'écriture. Donc l'écriture n'est pas la seule à partir de laquelle on accède à la révélation.
Vous auriez pu le dire plus clairement, parce que là,
oui.
Oui,
c'est vrai, mais vous avez raison. Ça veut dire que là aussi, il faut entrer dans la... Mais vous avez raison. Voilà. Cette phrase-là, elle a été rajoutée. Hein. Elle a été rajoutée.
Voilà. Ça ne correspond pas du tout à la tradition dont on peut parler aujourd'hui au niveau des dogmes.
Oui, mais les dogmes, il faut considérer les dogmes comme étant ceux grâce auxquels l'Église a pu affirmer la foi en Christ, vrai homme, vrai Dieu, une personne en deux natures. Le dogme nous permet à toutes et tous de proclamer, si vous avez la foi bien entendu, de proclamer la même foi avec les mêmes mots. C'est ça le dogme. Le dogme a son importance pour l'affirmation de la foi, pour la profession de foi. Mais c'est tout. Il n'est pas là pour nous asséner des vérités. On n'est pas dans la... Vous savez, au 19e siècle, 20e, on était dans une apologétique. On était dans le... Voilà, il fallait prouver. Hein, la théologie, c'est une théologie qui assénait des vérités que l'on ne pouvait pas contester. C'est pas ça le dogme. Le dogme, il nous permet d'affirmer notre identité chrétienne, de dire que si nous avons la foi, nous avons la même identité chrétienne, mais que dans cette identité chrétienne, il y a aussi du subjectif, c'est-à-dire que ma foi n'est pas la même que la vôtre, parce qu'on n'est pas de la même famille, parce qu'on n'a pas la même histoire, et parce qu'on ne met pas les mêmes mots sur notre foi. Donc le dogme, il a été important dans les premiers siècles de l'Église, parce que naissaient des questions dans l'Église qui étaient de très bonnes questions. Est-ce que Jésus est vraiment le Fils de Dieu ? Est-ce que Jésus est-ce qu'il est vraiment de nature divine ou est-ce qu'il est que de nature humaine ?
C'est des hérésies qui ont combattu saint Augustin.
Mais c'est des hérésies, vous voyez bien, au début c'était des questions. Ce n'était que des questions. Elles sont devenues hérétiques une fois qu'on a fixé le canon, une fois qu'on a fixé le dogme. Après, si on continue après, c'est hérétique. Mais ces questions-là, elles ont été nécessaires pour l'Église. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire ensemble le même credo, qu'on soit en France, qu'on soit en Espagne, qu'on soit en Allemagne, qu'on soit... voilà. Et on peut dire avec les mêmes mots. C'est ça l'enjeu du dogme. Donc le dogme, il est important, mais on ne doit pas lui donner plus d'importance que ce qu'il n'a, vous voyez ce que... voilà. Et ce serait une erreur de considérer la théologie comme étant un bloc dogmatique. Non, la théologie, elle n'est pas dogmatique. La théologie, elle se met en œuvre à partir de la dogmatique. Le dogme, il nous dit « Jésus est vraiment homme et vraiment Dieu ». D'accord, alors moi, en théologie, je vais reposer des questions. Comment il est vraiment homme et vraiment Dieu ? Est-ce que, par exemple, je peux considérer que ben ça, c'est une question, par exemple, que Joseph Moin ou Bernard Cesbué a posée dans un livre. Dieu peut-il avoir un fils ? Par exemple, vous voyez ? C'est-à-dire qu'après, se met en œuvre. Mais vous voyez bien, on dit que c'est de la théologie, mais c'est d'abord des questions qui sont poussées par notre foi. Mais la foi, enfin, on a discuté tout à l'heure avec Aude, la foi, c'est de la théologie. C'est parce que l'on a la foi qu'on se pose des questions qui sont théologiques. Vous voyez ?
Moi, je ne connais pas bien la Bible, mais quand je lis l'histoire de Jésus, par exemple, à hauteur d'homme, on voit bien que quand il faisait des miracles, les gens se posaient la question, est-il vraiment le Fils de Dieu ? Et il répondait, oui, c'est vraiment le Fils de Dieu.
Alors, il ne se posait peut-être pas la question comme ça, mais il se posait la question, mais par exemple, d'où tient-il cette autorité ? Exactement. De lui-même ou de Dieu ?
Voilà, dans ces termes-là.
Vous avez raison.
Dans toute la Bible, on voit bien qu'à hauteur d'homme tout simple, les gens se posaient cette question, et qu'elle est naturelle, elle est légitime. Oui. Et qu'après, la théologie peut s'en emparer, bien sûr.
Oui. Mais tout à fait, mais je vous suis tout à fait. Vous avez tout à fait raison.
Merci pour cette précision.
Je vous en prie. Mais vous voyez, ça me fait dire Jésus lui-même dit je ne suis pas venu porter l'union, mais la désunion. Le père contre le fils, la belle-fille contre la belle-mère. Voilà. C'est pas compliqué, mais c'est complexe. La foi, elle est complexe. Et du coup, la théologie, elle s'inscrit dans cette complexité des questions qui s'entrechoquent et qui sont toutes des questions légitimes. Toutes les questions en théologie sont légitimes. Toutes les questions de foi sont légitimes. Oh, je vois l'heure qui passe. Voilà, je ne suis pas arrivée à la fin de mon plan. Hein. Bon. Alors, il est l'heure, j'ai pas terminé. Vos questions m'amènent à... Mais c'est bien, après tout, je ne suis pas obligée de tout dire sur le texte, sur les feuilles que j'ai préparées à votre intention. Mais je vais vite parcourir pour essayer de resserrer un petit peu les affaires. Par exemple, là, sur le point 3.3, que j'ai intitulé « La double fonction de la mise à l'écrit », j'ai beaucoup parlé de fixation depuis le début. Mais à cette fixation-là, il faut la comprendre comme un faire-mémoire. Vous voyez bien. L'écriture, elle a cette fonction non pas de se souvenir simplement ou seulement, mais de faire mémoire de ce qui a été posé à un moment donné. Lorsque l'on lit dans les Actes des Apôtres la manière dont les communautés se retrouvent, comment elles se retrouvent, ce qu'elles font quand elles partagent le repas, elles font mémoire de quelque chose, d'une mise en place liturgique à partir de laquelle nous vivons la liturgie aujourd'hui. Donc, la mise à l'écrit, elle a cette fonction de faire mémoire, pas simplement pour se souvenir de ce qui s'est passé. Je vous ai beaucoup parlé d'identité chrétienne, du témoignage. Pour la tradition apostolique, on peut parler aussi de confiance. On a confiance dans la tradition apostolique parce qu'on a confiance aux apôtres, on a confiance en eux. Les apôtres, ils ont engagé leur vie pour le Christ, au point de mourir pour lui. Donc, au nom de leur vie, au nom de cette mort, de leur engagement, nous, aujourd'hui, on peut se dire, leur engagement doit dire quelque chose pour ma foi aussi aujourd'hui. Donc, la confiance en ces hommes-là. Au nom de ce qu'ils ont fait, on a confiance en eux. Et puis, pour en venir à votre question sur les écrits apocryphes, par exemple, j'avais écrit, dans les évangiles, on trouve des mises en garde. Matthieu, chapitre 7, verset 15. « Il faut se méfier des faux prophètes. » Actes, chapitre 20, verset 29. « Des loups redoutables s'introduiront parmi vous. » Ou encore, « Ne pas se laisser égarer par les doctrines étrangères. » Voilà. Vous voyez, il y a aussi des mises en garde. La question de l'identité, elle est aussi importante pour l'appartenance. L'appartenance à la société, pour ceux qui vivaient au temps de Jésus, ils sont sous occupation romaine. Donc, l'identité chrétienne, c'est aussi se différencier de la société romaine. Donc, vous voyez, tout ça, ça joue dans l'affirmation de l'identité. C'est pas simplement, ça n'a pas simplement à voir avec la foi. Il y a aussi la question, vous lirez par vous-même le texte 8 sur la transmission et l'interprétation des Écritures dans l'Église comme acte de foi. Le texte, il dit bien, il parle bien de lui-même.
Ça, c'est le point grand 4.
Oui, c'est ça, tout à fait, dans le point grand 4. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en synthèse ? Bon, je suis en train de dire. Voilà. Bah, j'en arrive finalement. Bah, je vous avais dit quand même pas mal de choses. Voilà. Sur la compréhension. Voilà. Bon. Alors, juste cette dernière phrase. Alors, cette dernière phrase, j'ai mis des guillemets, donc elle ne doit pas être de moi. Donc, je vous la livre telle qu'elle est. Je n'ai pas mis. J'ai mis un guillemet, donc ne faites jamais ça si un jour vous faites un devoir. L'Assemblée chrétienne ne fait pas que redire des mots anciens. Elle fait mémoire d'un événement fondateur, la venue, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, confessé Fils de Dieu, Sauveur. Donc vous voyez bien que l'Écriture va au-delà du simple héritage, perpétuation, de génération en génération. Bon, allez, bon repos.